Hold on, everybody. Here it comes.
Podzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 107, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec Justine Virido et j'espère que vous êtes bien déprimés. Parce qu'après avoir écouté ça... ou ça... ou encore même ça... ira nettement mieux. Voyageuse solitaire fermement résolue à avancer, solidement accrochée à la fois à son sac de couchage et à son indépendance, Justine, c'est une cyclo-voyageuse plutôt atypique qui a combattu la dépression par le vélo. Cet épisode est dédié à la mémoire de Yann Thomas.
Ouais, et là, tu m'entends ?
Oui, très bien.
Non.
Si.
C'est vrai ?
Oui.
Bah alors ça.
T'enregistres ?
Bah ouais.
Mais j'entends très bien.
Ah bah
ça y est.
Ça me la coupe. Enfin, si on peut dire de toute façon. De toute façon, j'ai deux enfants maintenant, elle peut tomber. Hein. Ça, j'en ferai pas un troisième.
Hein. T'en as plus besoin. Oh bah...
maintenant, tu sais, quand t'es à ce niveau-là, ça encombre plus que ça rend service. Hein.
Bon, faut en garder un petit peu quand même, hein, au cas où.
Oui. Bah... franchement, j'ai d'autres problèmes. Hein. Enfin bref, voilà. Au moins ça donne le ton.
Ah oui, ça met à l'aise, ouais.
Oui, bah, et surtout que, bah, tu vois, j'avais déjà tout à l'heure, quand on s'est parlé, j'avais fait une superbe introduction à ta gloire et tout, une sorte de petit
Mais
hôtel
oui.
exceptionnel où je chantais tes mérites. Et du coup, je vais être obligé de recommencer parce que je peux pas l'utiliser. Mais n'empêche que je suis hyper content de t'avoir parce que ça fait des mois et des mois que je suis tes périples. Je n'en ai pas l'air comme ça parce que je like pas, je commande pas et voilà. Mais n'empêche que je sais exactement ce qui se passe, qui fait quoi et surtout qui ne roule pas. Et du coup, je suis vraiment très très content parce que en plus, en préparant cet épisode, je me suis documenté sur toi, j'ai parcouru ton blog, comme je t'avais dit, et j'ai découvert, à ma grande stupéfaction, que tu as bien plus à raconter que j'avais envie de voyager. Alors j'ai pris mon vélo, je suis allé pédaler et puis je suis rentré à la maison. Donc c'est bien plus, c'est bien plus que ça, et j'en suis vraiment ravi. Parce que le vélo, c'est aussi ça, c'est une forme d'exploration de soi et d'auto-guérison, si on peut dire, et de thérapie par l'action.
Complètement.
Donc je suis super, super content d'en parler avec toi aujourd'hui. Mais avant cela, eh bien, Justine Virido, qui es-tu ?
Alors, donc Justine...
T'es pas obligé de répondre, hein.
Donc j'habite dans le Vaucluse et à la base je suis photographe et je fais du vélo depuis tellement longtemps que je ne sais plus exactement depuis quand. Mmh. Je faisais du VTT au départ quand j'étais un peu plus adolescente et j'ai commencé à prendre le vélo pour me déplacer, pour aller travailler puisque je n'ai jamais passé le permis de conduire. Même aujourd'hui à 40 ans, je ne l'ai toujours pas. Et du coup, c'est vrai que le vélo était pour moi juste un véhicule à la base jusqu'à ce que je découvre le voyage à vélo il y a 3 ans. Et depuis, je ne vis pratiquement que sur mon vélo. Donc voilà, en bref.
Bon, t'es photographe, mais t'as une petite activité cacao aussi.
Oui, depuis pas longtemps. Depuis vraiment pas longtemps, ça fait un an et demi, 2 ans à peu près. Que j'ai créé suite à une reconversion après donc une grosse dépression et un burn-out dans la fonction publique. Et voilà.
Ben voilà, alors.
Et voilà.
L'art de la narration, hein.
Oui.
Maintenir en haleine, ne pas trop en dire, surtout ne pas trop en dire. Bon, alors déjà, je suis désolé, mais là, vu que tout le monde va le penser, je suis obligé de te poser la question. Comment
Oui.
on peut, et certainement une question qu'on t'a posée 50 000 fois, comment on peut faire un burn-out quand on est dans la fonction publique? Je suis désolé de commencer comme
Ah.
ça.
Mais
Enfin, quoi que
pas
moi, je
besoin
suis
d'être
pas
désolé.
désolé, en fait. C'est ça le pire. Je suis même pas désolé.
Ne le sois pas. Alors c'est assez bizarre. Enfin moi, de mon pour mon cas très personnel, j'ai compris la venue du burn-out lorsque quelques années plus tard, après mon pétage de plomb, on va dire, pour dire très franchement ce que c'était, on m'a diagnostiqué en tant que HPI, donc qui veut dire haut potentiel intellectuel. Et les HPI sont assez connus pour avoir beaucoup de mal à s'intégrer, comment dire, comment expliquer ça, à pouvoir se conformer à des règles, à des codes, à entrer dans les cases surtout. Et dans la fonction publique, il faut entrer dans une case, faire comme tout le monde, avoir une vie bien réglée, bien cadrée, tout organisée. Et on s'entend pas toujours avec les personnes avec qui on travaille. Quand on a un esprit assez vif, très réactif, et qu'on a des idées à foison, et qu'on se retrouve bloqué par l'administration, par des demandes qui prennent des mois pour avoir un simple stylo, par des personnes avec qui on travaille qui se moquent de nous, par un chef qui nous donne aucun travail à faire pendant 4 5 mois, par des collègues qui nous insultent, par voilà, c'est difficile de gérer son émotivité et être très émotive et hypersensible dans la fonction publique, c'est mal vu parce que on doit juste suivre ce qu'on nous dit, fermer notre gueule. Sauf que ce n'est pas du tout mon cas. J'ai tendance parfois à un petit peu trop l'ouvrir, donc j'ai été très rapidement mise de côté au sein de mon service. Ça m'a beaucoup peinée aussi parce que, en fait, j'ai découvert un métier merveilleux parce que je travaillais aux archives départementales, qui sont en plus dans le Palais des Papes d'Avignon, donc c'est extraordinaire. Je suis rentrée, c'est marrant, je suis rentrée dans ce service pour remplacer une personne qui était partie en dépression.
Ah, c'est
Et
marrant, hein, dis donc.
ouais, il
Enfin,
n'est jamais revenu.
l'humour du Vaucluse, c'est quelque chose, hein, quand on n'est pas habitué.
Ah, c'est fabuleux, hein, le Vaucluse, c'est particulier.
Oui, je sais, on en a beaucoup parlé ces derniers temps.
N'est-ce pas? Et du coup, donc, on m'a proposé de rester. Et comme moi, je sortais de mes études de photographie et que je voulais pas aller travailler dans un magasin pour faire des photos d'identité et des mariages, j'ai accepté le poste. Donc, j'ai découvert un métier extraordinaire dans la restauration des vieux documents, la conservation, etc., etc. Ça me plaisait beaucoup. Et à côté de ça, j'avais beaucoup de temps pour la photographie. Et surtout à Avignon, qui est une ville culturelle et artistique, j'ai pu développer, faire beaucoup d'expos, développer mon activité. Ensuite, inconsciemment, en fait, j'essayais de me conformer à tout le monde, d'être comme tout le monde, de faire comme tous les artistes avignonnais, de faire comme tout le monde, essayer en fait de me calquer sur la mentalité de mes collègues de travail, alors que le pastis et le foot, c'est pas mon truc. Et puis, en fait, j'en faisais trop, donc je suis allée trop loin, et au bout d'un moment, tout a craqué, tout a lâché. J'ai littéralement pété les plombs, je suis partie en maladie, en dépression, en 2015, et je n'y suis jamais retournée. Donc j'ai démissionné officiellement en 2019. Et depuis, d'ailleurs, le jour où j'étais officiellement en 2019, je m'en souviendrai toute ma vie. Le 1er juillet 2019, pardon, j'étais partie la veille pour mon petit périple à vélo de l'été. Et le 1er juillet 2019, où j'étais officiellement démissionnaire, que je suis sortie de ma tente et que j'étais en pleine nature, ça a été le jour le plus beau de ma vie. Et je suis partie sur mon vélo et là, c'était la liberté, la véritable liberté. Je n'étais plus attachée à la fonction publique. Je ne devais plus gérer ma vie en fonction de la fonction publique. Et c'était comme une renaissance en fait. Et depuis, c'est presque la belle vie.
Pourquoi presque la belle vie? Parce que choisir des arômes de cacao, c'est pas si facile que ça.
C'est vrai que c'est pas évident parce que je me suis lancée là-dedans sans vraiment avoir de grandes connaissances. Mais c'est la belle vie dans le sens où justement, Je peux faire ce que je veux au moment où je veux. Surtout que j'ai la chance d'avoir ma famille qui me soutient, qui m'ont hébergée quand j'étais en pleine transition. Parce que sans eux, même financièrement, matériellement, je n'aurais jamais pu m'en sortir. Et il aurait fallu que je retourne travailler, faire un métier peut-être dans un endroit qui ne me plaît absolument pas. Donc j'ai quand même une chance extraordinaire de pouvoir me permettre de faire ce que je veux. Et le cacao est arrivé aussi dans ma vie par le plus grand des hasards, vraiment d'une façon complètement insolite. Et ça a été un déclic, une passion soudaine qui m'est venue et j'ai découvert donc les artisans chocolatiers qui fabriquent eux-mêmes leur chocolat, qui sont finalement pas si nombreux que ça, puisqu'à la base, c'est simplement une matière qu'un chocolatier utilise. Et j'ai remarqué en fait que j'avais beaucoup de mal à acheter des tablettes de chocolat artisanales. Donc comme il n'y avait rien pour pouvoir acheter les tablettes, je me suis dit mais pourquoi je proposerais pas aux autres de trouver des tablettes. Donc j'ai créé ma petite boutique où je vends uniquement de la tablette de chocolat qui viennent d'artisans du monde entier qui travaillent dans ce qu'on appelle en bean to bar, donc de la fève à la tablette. Et là, ça commence à se développer petit à petit. Voilà.
Bon, le vélo, voilà. le vélo.
Oui, alors, allez. Le vélo, je ne l'ai pas choisi. Je me rends compte que je n'ai jamais décidé de faire du vélo. C'est juste que le vélo était présent parce que j'en avais besoin pour me déplacer, tout simplement, vu que je ne conduisais pas.
Ouais.
Et que c'était pratique. J'aimais bien aller me faire des petites balades à la journée. Quand je faisais du VTT, tu vois, moi, j'étais plus dans la descente, tu vois, dans la caillasse, en pleine cambrousse. Dans la pampa vauclusienne. Et puis, en fait, c'est venu d'un coup, comme j'expliquais là, donc dans mon blog, j'ai pas vraiment réfléchi à me renseigner sur le voyage à vélo, ce n'était pas non plus du tout d'un point de vue écologique, c'était, j'avais ce véhicule, j'aime bien l'utiliser. Et financièrement, j'étais un peu, même beaucoup limitée pour pouvoir partir en vacances. Ça faisait 2 ans que j'étais en arrêt de travail, 2 ans que je travaillais avec le psy sur mon état d'esprit, et enfin sur mes problèmes psychologiques donc. Et je commençais à aller un petit peu mieux. Et j'avais envie de recommencer à sortir, à bouger, parce que en fait, avant, je bougeais beaucoup. C'est même le week-end, après le travail, le vendredi soir, je montais dans un train, n'importe lequel. Hein. Je m'arrêtais au premier village qui me paraissait sympathique, j'y passais le week-end et je rentrais le dimanche soir. Ça, c'était ma vie quotidienne. Sauf que pendant la dépression, je ne bougeais plus. Je restais chez moi, je pleurais, je cogitais. Voilà, la dépression, on n'a plus rien, envie de rien. C'est simple, on ne sort plus, même plus boire un café à la terrasse du bar du coin. Absolument plus rien. Pourtant, j'avais beaucoup dans des expos et tout, bref. Et donc, quand je me suis sentie un peu mieux, là, j'ai eu envie de rebouger, de partir un petit peu en vacances. Et j'étais limitée et je me suis dit, bah tiens, pourquoi je partirais pas avec mon vélo? Ça me ferait des vacances vraiment pas chères, puisque comme j'ai juste à planter la tente où je veux, les campings municipaux sont pas chers, je mange la même chose que ce que je mange à la maison, donc j'aurai pas beaucoup de dépenses. Et j'ai regardé un peu sur Internet. Et j'ai fait comme tout le monde, hein, quand on connaît pas la chose, le sujet, je suis partie faire le canal du Midi. Dès le premier jour, en fait, le premier soir, je me suis arrêtée. C'était la première fois, malgré toutes ces années où je fais du vélo, que je pédalais une journée complète, du matin au soir. Et arrivé le soir, je me suis rendu compte que je ressentais en fait une sorte d'apaisement que je n'avais pas ressenti depuis au moins 20 ans. Mon corps se sentait bien, mon esprit se sentait bien. J'étais vidée parce que j'avais toute la journée, j'avais médité en quelque sorte. Alors qu'avant, je n'arrivais jamais à méditer parce que j'étais hyper active, je tenais pas en place. Et en fait, ça a été ce moment-là. C'est cet apaisement que j'ai ressenti qui a été une véritable révélation pour moi. Et mon cerveau s'est mis à l'arrêt, chose qui ne m'était encore jamais arrivée de ma vie. Puisque mon cerveau est en permanence en action, je réfléchis tout le temps, tu vois, je peux pas dormir tellement mon cerveau fonctionne. Et ce jour-là, j'ai dormi une nuit complète, aucune insomnie, aucune pensée, une tranquillité d'esprit absolument extraordinaire. Et j'ai continué à avancer. Et j'ai tout simplement plus jamais voulu m'arrêter. C'est tout. C'est juste venu comme ça, tout simplement. Allô?
Bah, qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça?
Ah
Franchement.
pardon, je croyais que ça avait encore coupé.
Non, bah non, mais bon, tu vois, je vais pas non plus mener un entretien à toute allure, bâton rompu. Et alors, du coup, ok, bon, c'est très bien, t'as déprimé, t'as pris ton vélo, mais c'était quoi tes pneus? Hein? Et puis ton vélo, c'est quoi? Et puis tes lampes? Et ton sac de couchage,
Ça
bah ça
faisait
m'intéresse.
combien?
Mais ça m'intéresse vachement parce que je compte partir cet été. Alors, d'accord, t'étais déprimé, mais putain, ton sac de couchage, c'était quoi?
Quelle marque!
Parce que moi, sur Gravelbike
Allez,
France, on m'a pas conseillé ça, hein. Alors, oh!
Et quoi, t'as un cintre plat? Pardon.
Non, mais par contre, tu vas me raconter quand même pourquoi cette manie d'utiliser des accessoires en cuir. Quand même chaussures en cuir, petite ceinture en cuir autour de la taille, petite pochette en plus, t'as quand même soigné ton look.
Ben, je sais pas, je suis comme ça tout le temps, quoi.
Je sais pas, je
C'est.
te connais pas, je te pose juste la question.
Voilà. En fait, ben voilà, je te réponds, je suis comme ça tout le temps. C'est mon look
Pocahontas.
habituel. Voilà. J'ai le style. Je rigole.
Non mais c'est vrai qu'en plus t'as un look d'enfer, franchement.
Mais tout le monde me le dit, alors du coup, je vais me lancer dans le
Franchement.
style.
Franchement, ouais, look d'enfer, quoi. Mais bon, d'accord, t'as roulé toute la journée. Alors déjà, quand tu me dis t'as roulé toute la journée, alors c'est pas, y a pas de moquerie, y a pas de rien du tout. T'as fait combien de
Ouais.
kilomètres ces jours-là, quand tu faisais combien?
Alors,
Histoire de donner une idée, tu vois.
au tout premier voyage, j'étais très lente. En plus, le canal du Midi, c'est quand même un petit peu cassant, hein. C'est une petite piste VTT plus pour VTT qu'autre chose, hein, avec les racines, les machins, patins, couffins. Et puis, j'ai tendance à beaucoup m'arrêter, faire des photos, même si c'est 30 secondes et tout.
Bah
Le
oui.
tout premier voyage, ouais, je devais faire une soixantaine de kilomètres dans la journée, à peu près. Et après, de toute façon, plus les jours avançaient et plus je faisais des kilomètres sans m'en rendre compte, puisque le corps s'habitue, on finit par se renforcer, on finit par s'habituer. Et à la fin du périple, oui, je pouvais atteindre la centaine de kilomètres dans la journée. Après, faut savoir que moi, je pars au lever du jour et je m'arrête au coucher du soleil, quoi.
Ouais.
Donc, c'est vraiment des journées complètes. Je ne m'arrête que la nuit. Je peux aussi très bien faire une sieste et m'arrêter 2 ou 3 heures en début d'après-midi. Surtout que j'ai tendance à aussi à partir en pleine canicule. Donc, je m'arrête un peu les après-midi. Je trouve un coin, je m'installe, je sors le matelas, je fais la sieste tranquille et hop, après, je repars. Mais au début, c'est toujours doucement, et puis au fur et à mesure, comme cet été où j'ai fini les derniers jours où je me suis tapé 150 km dans la journée, quoi.
Et au début, tu dormais hyper bien. Est-ce que cet état de quiétude s'est maintenu au fil de ton voyage ou de ton périple? Ou est-ce qu'à un moment donné, finalement, le naturiste est revenu au bungalow et t'as recommencé à gamberger et à mal dormir?
Alors une fois à la maison, c'est un petit peu revenu, mais ça revient en fait dans les périodes où je ne pédale pas, justement. Bon déjà dès le premier périple, j'avais qu'une envie, c'était de repartir. J'étais à peine rentrée que j'étais plongée sur Internet et là j'ai découvert tout un monde au sein des voyageurs à vélo absolument incroyable. Et du coup, bah, j'ai repris. Je partais régulièrement juste le week-end ou des journées ou 2, 3 jours. Et quand je m'arrête, parfois je m'arrête l'hiver parce que aussi je suis le cliché typique de la sudiste qui ne supporte pas le froid. Donc l'hiver, je pars beaucoup moins faire des périples de plusieurs jours. Et là, c'est vrai que l'hiver, comme je pédale beaucoup moins, voire parfois pas du tout pendant 2, 3 mois, j'ai les insomnies qui reviennent, j'ai le cogitage qui revient, et ça s'arrête dès que je repars sur mon vélo, même une simple après-midi après 40 km, quoi.
Est-ce que à l'issue de ce premier voyage, tu as eu comme une phase de déprime?
Non, pas du tout.
Non? Où tu
Au
dis
contraire, ça m'a fait faire.
c'était ouais ça t'a enfin oui non c'est bête comme question parce que tu revenais déjà d'une déprime mais légèrement différente dans le sens où ça remettait en question tout ton éventuellement tout ton mode de vie ce que t'as ouais non ce que t'avais éventuellement vécu avant et où bah là
Alors,
tu revenais à une vie entre guillemets normale organisée avec des contraintes etc. alors que finalement dans les chemins bah il y en a pas. À part les cailloux et les
ben, pas
racines.
vraiment en fait, parce que j'étais dans une période, et je le suis toujours d'ailleurs, où je réfléchissais pour construire une nouvelle vie. Du coup, en fait, ce petit voyage à vélo m'a, comment dire, je me suis dit que j'allais intégrer ça dans ma nouvelle vie. J'avais envie d'intégrer le voyage à vélo et le vélo tout court dans cette future vie. Donc je fais tout en sorte à ce que le vélo soit là au quotidien, que ce soit au niveau professionnel, puisque du coup je fais aussi mes livraisons de tablettes avec mon vélo. Et comme je travaille sur une boutique en ligne sur Internet, j'ai du temps la journée pour aller faire du vélo. Donc pour moi, c'est devenu, si tu veux, quelque chose. Je l'ai intégré dans ma vie de tous les jours. J'ai fait en sorte que le vélo, même le voyage à vélo, fasse partie de ma vie. Du coup, j'ai pas eu ce côté un peu de. Parfois, on a un peu le petit côté, voilà, déprime quand on rentre d'un voyage, que c'est compliqué de revenir au quotidien, parce que je n'avais plus de quotidien. J'étais en train de créer un nouveau quotidien. Donc c'était le bon moment pour moi de pouvoir intégrer le vélo dans mon quotidien. Et maintenant qu'il est là, je ne reviendrai jamais en arrière. Ça, c'est certain. S'il n'était pas là, oui, peut-être que je serais reparti.
Donc, en plus de faire de voyager régulièrement, enfin en tout cas faire ce qui m'a fait rire sur ton blog, c'est que tu dis moi je faisais des micro-aventures avant que le terme ne soit à la mode. Ça m'a fait sourire.
Ouais.
Donc en plus de ça et de faire tes livraisons à vélo, ça veut dire quoi intégrer le vélo au quotidien dans ton mode de vie?
Ouais. Ben, faire en sorte que de prendre du temps pour les sorties, pour les voyages, pour tout ça en fait. De vraiment dans mon si je devais faire un planning, je mettrais les jours de voyage et les jours de vélo dans mon planning quotidien. C'est pour moi c'est une évidence aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Je sais pas trop. J'arrive pas à trouver les mots justes. Je me vois pas vivre aujourd'hui sans partir un ou deux mois l'été, sans partir 3 jours tous les mois. Sans. Voilà, je fais en sorte d'aménager du temps pour ces moments-là.
Bah, puis ça veut dire aussi qu'avec 4KO, tu vas devoir trouver une organisation au quotidien pour faire du bah, pour bosser depuis ta tente, finalement. Donc trouver l'organisation pour assurer ce fonctionnement de même en étant loin de chez toi.
Ouais, alors là c'est un peu plus compliqué parce que du coup j'ai la gestion de stock des tablettes que j'ai chez moi. Mais en fait, ce que j'intègre surtout quand je suis en extérieur sur mon vélo, c'est mon activité de photographe. Donc maintenant, avant j'étais photographe de rue, photographe de concert. Et aujourd'hui, je commence, bah, depuis que j'ai commencé le voyage à vélo, je commence à m'intéresser aux paysages. Je travaille sur une série, par exemple, sur les routes de France à vélo. Je travaille dessus depuis que j'ai commencé mes périples, pour ensuite en faire des expositions, voire pour faire peut-être un livre photographique que je rêve de faire depuis 20 ans, que j'ai fait mes études en photo. Et je fais en sorte en fait que mon travail photographique colle avec mon activité de cycliste. Comme ça, je peux faire les deux. Après, pour le 4KO, c'est un peu plus compliqué dans le sens où j'ai du stock à gérer. Et là, je peux pas me trimballer avec tout mon stock, ça c'est
Bah
certain.
oui.
Voilà. Pour l'instant, comme je fais que de la vente par correspondance, j'arrête la vente à partir du mois de juin jusqu'en septembre à peu près, parce que l'été, c'est impossible d'envoyer du chocolat par la poste, à moins de vouloir recevoir du chocolat liquide. C'est juste impossible. Donc là, je me consacre à ce moment-là à mon activité de photographe.
Oh, pour l'été, tu peux te reconvertir dans le Nutella, hein. Ça fonctionne.
Oui, je pourrais.
Ouais.
Mais après, à côté de ça, c'est vrai que j'ai aussi un autre projet. Je travaille sur d'autres choses, donc qui peuvent me permettre de parfois de travailler en étant sur la route, tout en travaillant, en étant chez moi. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que j'arrive à tout gérer et à des moments donnés, en des moments précis. Après, c'est encore plus ou moins en état pas de réflexion, parce que je commence à être vraiment dedans. C'est pas très stable, mais ça commence à se stabiliser. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Et j'arrive à tout faire au final.
Ton premier périple, c'était le canal du Midi. Et après, t'as fait
Ouais.
quoi? T'as toujours roulé, même avant la pandémie, t'as toujours roulé en France ou t'as sillonné le pays à faire des multiples diagonales? Ou comment t'as procédé? Qu'est-ce que tu as fait? Et pourquoi?
Alors, ensuite, oui, donc c'est vrai que je suis toujours restée en France. Je n'ai jamais pour l'instant voyagé hors de nos frontières. Quand je suis partie pour la deuxième année, alors la deuxième année était très compliquée, parce que ça a été l'année de tous les emmerdes, techniques, mécaniques,
Ah,
possibles.
enfin. Ah, allez.
Donc, la première année, je suis partie avec mon VTT, qui était au top, mais que, quand je suis rentrée, physiquement, ça n'allait pas du tout. J'ai chopé une tendinite,
Oh,
il y avait des problèmes de genoux, des problèmes de dos, des problèmes de ci, ça n'allait pas.
non, mais ça,
Donc il
c'est la
fallait que je trouve.
quarantaine.
Ah, il y a 3 ans, oui, je commence à approcher de la quarantaine. Et puis donc, à force de prendre mes renseignements, j'ai compris que c'est parce que le cintre que j'avais, qui est un cintre de VTT tout droit, normal, ne convenait pas à l'activité que je faisais. Déjà, je faisais plus de VTT dans la pratique au sens propre du terme. Je commençais vraiment à faire de la balade, de la route, tout ça. Donc le VTT n'était plus compatible avec mon activité, avec ma pratique plutôt. Donc je me suis énormément renseignée. J'ai voulu partir ensuite avec un vélo différent qui serait plus apte pour de la randonnée. Et j'avais acheté un vélo au marché aux puces à côté de chez moi, qui était, on va dire, dans les critères, donc ce qu'on appelle un VTC basique, tout simple, sans suspension, avec le guidon légèrement courbé, ce qui fait que quand je suis dessus, j'ai les bras dans une position beaucoup plus naturelle, alors que sur le guidon très plat du VTT, on a les poignets cassés. Et c'est ça qui m'avait donné des blessures. Donc je suis partie avec ce vélo, j'ai commencé à remonter la Via Rhôna pour la simple et bonne raison qu'elle est à peine 8 km de chez moi. Donc c'était le côté pratique, et en me disant, bah, quand j'ai envie d'en sortir, j'en sors. Si j'ai envie d'aller, voilà, parce qu'après moi je fonctionne beaucoup au feeling. Je ne me crée pas d'itinéraire avant de partir. Je dis, je pars par là. Et puis si cette route me plaît, me fait de l'œil, hop, ben tiens, je vais aller voir par là. Oh ben je vais rester sur la route, j'ai pas envie de m'embêter, je vais suivre les panneaux. Oh ben j'ai envie de galérer, je m'en vais. Tu vois, voilà. Donc je partais dans cette idée-là. Et puis ce vélo, il s'est avéré que c'était un vélo de très 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 basse qualité, avec un équipement merdique, hein, très franchement, bas de gamme. Et donc j'ai appris avec ce jour-là, enfin pendant ce périple, à dévoiler une roue avec une simple petite clé à rayon, paumée en plein milieu de l'Ardèche. Ma roue avance voilée tous les 2 jours, le dérailleur tombé, les freins lâchés. C'était une horreur. Une horreur. J'ai passé mon temps à faire de la mécanique. Donc au bout de quelques jours, j'en ai eu ras-le-bol, je suis rentrée. J'ai pas réfléchi. Je me suis dit, tant pis, ce sera un voyage avorté. Et ça ne m'a même pas dégoûté du voyage. Au contraire, ça m'a donné envie d'avoir du mieux. Et là, du coup, j'ai commencé à économiser un petit peu et je me suis acheté un vélo flambant neuf, qui est catégorisé, dans les vélos de voyage, qui est solide, costaud, avec de très bon équipement. Et du coup, j'ai presque envie de dire que malgré le canal du Midi et ce périple complètement raté avec ce vélo bas de gamme, j'ai l'impression d'avoir fait mon vrai premier voyage à vélo l'été dernier. Parce que là, j'avais un vélo top, je n'ai eu aucun problème technique, j'ai pu aller très loin, et là, je me suis régalée. Et je suis réellement sortie de ma zone de confort.
Oh, ça y est, t'as osé sortir cette expression.
Ouais, il fallait que je la sorte.
Pour toi ou simplement pour m'embêter? Parce que tu sais que je la supporte pas.
Non, pour moi.
Pour toi. Okay.
Pour moi.
Alors je respecte.
Non, parce que avant, c'est vrai que je restais toujours sur des choses, sur des routes qui étaient faciles pour moi. Parce qu'après, je m'amuse à dire que je suis une cycliste des plaines. Parce que même si je fais du vélo depuis tant d'années, je n'ai jamais franchi un col, par exemple. Donc, je suis toujours restée à plat. Je grimpais, ça me paraissait trop difficile pour moi. Pourtant, physiquement, je pourrais. Mais psychologiquement, j'arrivais pas à passer la barrière de l'effort physique que demande de grimper un col. Donc, je restais toujours sur des routes assez simples, des chemins faciles, des choses qui ne me demandaient aucun effort. Sauf que l'été dernier, j'ai oublié tout ça. Et là, je suis partie sur des routes que je n'avais jamais prises avant. Je me suis tapé des montées que je n'aurais jamais prises avant. Je me suis tapé, quand j'ai décidé à un moment donné de suivre l'itinéraire de l'Eurovélo 3 entre Tours et Angoulême, où je me suis fait 150 km de montagnes russes. Pour moi, c'était une grande première de faire une route qui grimpait autant, en fait. Voilà, je me suis retrouvée en Haute-Loire à pousser pendant 2 km dans les 20% du mur d'Aurec. Jamais j'aurais pensé faire ça avant. Et là, c'était même un bonheur de pousser dans cette montée. C'est complètement fou. Et donc, c'est pour ça que pour moi, l'été dernier a été le moment où j'ai arrêté la facilité. Et je suis vraiment entrée dans le vif du sujet, quoi.
T'es en train de me dire que t'es du Vaucluse.
Et ouais, jamais oui, je n'ai jamais grimpé le Ventoux. Je tourne autour, hein.
C'est comme un Parisien qui serait jamais allé à la Tour Eiffel.
C'est ça. Alors, j'y suis allée en voiture, avec les copains, faire du ski, du machin. Je connais le Ventoux, mais jamais à vélo. Par contre, je me suis mis en tête que le Ventoux serait mon défi pour mes 40 ans. Donc, j'ai dans l'idée de tester de le grimper à l'automne prochain.
Oh, non, mais juste.
Ouais. Juste. Ouais.
Bon, on y reviendra. Qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement tu aies envie ou que tu aies la tolérance au niveau d'effort que demandent parfois les montées, les forts pourcentages etc. Qu'est-ce qui faisait que tu ne l'avais pas avant et que tu l'avais maintenant? Ne me fais pas croire que c'est uniquement parce que tu avais un beau vélo. Personne n'est dupe, Justine Virido.
Non, c'est parce que je pense que du fait, quand j'étais dans ma dépression, j'essayais d'éviter tout ce qui m'était inconfortable et tout ce qui me demandait des efforts. Moi, tout ce que je voulais, c'était de la simplicité. Et à partir du moment où j'ai commencé à me sentir mieux, la simplicité m'a lassée, tout simplement. Et c'est venu tout seul, je n'ai même pas réfléchi. C'est à partir de ce moment-là, je pense que j'étais prête à passer, à arrêter de me faciliter la vie, quoi, tout simplement. Et puis, grimper une simple montée, ça fait aussi partie du vélo. Je veux dire, je ne vais pas rester sur du plat toute ma vie, c'est ridicule. Voilà.
Il y en a qui l'ont fait avant toi, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément super. Enfin, ce n'est pas que ça, quoi, le vélo.
Non, c'est pas que ça, mais ça en fait partie aussi. Et en fait, je me suis même pas, à aucun moment, je me suis dit, bon, bah, ça y est, allez, maintenant, tu grimpes. Non, c'est juste que je suis partie, j'ai quitté la route que je prenais pour prendre une route au hasard, et puis d'un coup, je me suis retrouvée en Haute-Loire, où là, bah, j'avais pas trop le choix que de grimper. Donc, j'ai avancé, et puis, si ça m'avait posé souci, j'aurais tout simplement fait demi-tour. Sauf que là, j'ai continué d'avancer non-stop. J'avais qu'une envie, c'est d'arriver au bout. Et une fois arrivée au bout, je me suis sentie tellement fière de moi, même si j'ai beaucoup poussé, peu importe, je m'en fichais complètement, je n'ai même aucune honte à pousser, parfois ça me détend, ça me fait du bien. Je me suis dit, bah ça y est, c'est comme si j'avais franchi un cap. Et c'était pas qu'un cap physique, c'était aussi un cap psychologique. Comme il y en a qui ont du mal à passer le cap du bivouac seul en pleine nature. Ben moi, le cap, c'était les montées, tout simplement. Le bivouac, ça, j'en fais depuis que je suis adolescente. Donc ça, le cap, je l'ai passé il y a longtemps. Mais c'est venu naturellement et puis ben, ça s'est présenté, c'était sur ma route. J'avais pas d'autre choix que de le faire si je voulais avancer, quoi. Sinon, fallait faire demi-tour et rentrer, hein, tout simplement. Et je n'avais pas envie de rentrer. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Bon alors, pourquoi une seule montée du Ventoux ? Tu vas pas abandonner. Enfin, c'est pas une question d'abandonner vraiment, mais tu vas pas monter une seule fois. Tu vas me faire le plaisir de te faire les trois dans la journée.
Je te promets ça que fera peut-être beaucoup.
Je te promets que ça passe. Allez, d'abord, et que tu en es capable, j'en suis sûr et certain. Tu peux pas enquiller des kilomètres et des kilomètres sans avoir un minimum de conditions et ne pas être capable de le faire. J'en suis sûr que tu es capable. Une seule fois par Salt, excuse-moi, mais ça compte pas.
Oui,
une fois par Malocène, c'est bien, mais bon, il y a un passage à 12%, c'est pas ça qui va te déboîter les rotules.
Ouais.
Bédouin, si tu prends ton temps avec le bon développement, honnêtement, c'est 10 km. Bon, bah ok, tu vas mettre une heure à monter au chalet et après une demi-heure, trois quarts d'heure pour arriver en haut. Avec le bon développement, ce qui est difficile à vélo, c'est de vouloir aller vite. Mais quand tu prends ton temps et que tu as le développement adapté, que tu prends ton temps et que bah ouais, tu vas mettre le temps qu'il faut, ou même à la limite, tu tirais plus vite en courant à côté de ton vélo. C'est pas difficile, et tu le feras, franchement.
Bah en alors, fait,
fais-moi les trois, s'il te plaît, fais-moi plaisir. fais-toi plaisir, parce que tu seras bien plus fier. Et quand on aura fait une, tu te diras, mais quelle gourdasse, je pourrais en faire une deuxième. Puis quand on a fait une deuxième, pourquoi tu redescendrais pas faire la troisième?
Bah, déjà, une, ce serait déjà bien. Mais tu vois,
y arriveras à en faire une, arrête.
Et tu vois que c'est rigolo que tu dis que même si on va doucement et qu'on va plus doucement que si on courait à côté du vélo, c'est en fait c'est pour ça que je pense que je n'avais jamais grimpé avant, c'est parce que moi peu m'importe de rouler de rouler lentement, ça ne me pose aucun souci. Justement, je préfère prendre mon temps, m'arrêter si besoin pour reprendre mon souffle. Mais en fait, avant, je trouvais ridicule de pédaler encore plus lentement que l'allure à laquelle je marche. Donc c'est pour ça que je m'arrêtais, je poussais au lieu de pédaler. Donc j'ai jamais pris l'habitude de pédaler dans les montées. Donc même si j'y vais très lentement pour faire ce Ventoux, peu importe, ça m'importe peu. La vitesse, c'est pas ma priorité du tout.
Ouais.
Donc après, le monter une fois, oui, le monter trois fois, pour la première fois, je sais pas. On en reparlera l'automne prochain. Mais ce que j'entends souvent dire, par exemple, à propos du Ventoux, c'est parce qu'il est long, parce qu'il y a quand même 20 km. Donc, ça demande un effort continu. Mais en tout cas, tu vois, c'est le Ventoux, la première fois que je me suis dit que je serais peut-être capable de le faire, c'est quand j'ai commencé à traîner sur les groupes Facebook de voyageurs à vélo. Mmh. J'en vois un qui venait de se faire un petit tour de France en passant par les véloroutes, de tous les itinéraires balisés et compagnie, et que en passant par le Vaucluse, il a fait un détour pour grimper le Ventoux avec son vélo de 15 kilos et ses 25 kilos de bagages. Je dis, si le mec il a grimpé le Ventoux avec 35 kilos à pousser, à pédaler, moi je peux le faire. Tu vois?
Bah oui.
Donc au final, il est peut-être justement, comme tu dis, plus accessible que ce qu'on le pense.
Mais bien sûr. Tu roules en ce moment ?
Un petit peu. Là, j'ai repris un petit peu les balades. Dès qu'il fait bon, surtout qu'il fait bon chez nous, là, depuis 2-3 semaines, je suis un petit peu repartie sur les routes, ouais. Enfin, je tourne autour de chez moi. Je suis pas loin du Ventoux, en plus. Donc, je vais un peu au début et je rentre à Orange, voilà.
Eh ben, va te le monter dans un mois. Et on en reparle.
Non,
Si.
pas dans un mois.
Si. Si on se donne pas des challenges, à quoi ça sert? Si on se donne pas des trucs un peu stupides, si on prend pas le risque d'échouer, à quoi ça sert? Si tu y vas le jour où la météo est bonne, que le vent est dans le bon sens, que tu as la bonne pression des pneus, que tu as perdu 15 kilos de l'hiver, que tu as roulé 5 000 km et que tu es sûr de réussir, à quoi ça sert d'y aller? S'il n'y a pas une bonne chance d'échouer, à quoi ça sert d'aller se frotter à un truc?
Moi, je m'étais dit qu'au début de l'automne, ce serait bien parce que c'est la période où je reviens de mes voyages de l'été, de toutes mes petites, entre guillemets, micro-aventures que je fais entre le printemps et l'automne. Et là, j'ai une forme physique au top du top. C'est la période de l'année où je suis vraiment physiquement au top du top. Donc, pour moi, c'était à ce moment-là que ce serait peut-être une bonne idée de le faire. Mais bon, je vais réfléchir.
Et en
Je
fait,
vais réfléchir à tout ce
tu
que tu
trouves
m'as
que tu as
dit.
encore un petit peu de chemin à parcourir dans l'acceptation de la difficulté ou de la douleur ou de l'effort à
Oui.
produire pour faire quelque chose en
Ouais,
termes
je crois que je suis en plein
d'inclinaison
dedans.
ou de distance?
Oui. Ouais. Parce qu'avant, je me préoccupais pas de tout ça. Je faisais mon vélo, basta. Voilà. Mais là, oui, j'ai encore qu'un petit travail à faire, mais je sens que je suis au bout de ce travail. J'arrive, je commence à arriver au bout de ce travail. Je le sens vraiment.
C'est-à-dire.
Ben, j'accepte plus volontiers certaines choses que je n'acceptais pas avant. Je rentrerai pas dans les détails à ce niveau-là, mais je sens qu'il y a un gros changement dans ma façon de voir tout ça, tout simplement, quoi.
Bon alors en termes de distance, ça veut dire que t'as plus de limites ou que tu te donnes une barrière à 150, 200 ou
Non, j'ai aucune.
une barrière en. Bon, c'est un peu abscon comme vocabulaire, mais parler en termes de distance ou de dénivelé, c'est un peu basique, mais ça donne aussi une idée de difficulté. Est-ce que tu sens que tu as encore des barrières, que tu es à deux doigts, donc comme tu me le dis, de les briser? Et maintenant, c'est quoi? C'est nos limites?
Là, je ne me donne jamais de limite. Parce qu'en fait, quand j'ai une limite, je me mets naturellement la pression. Je sais que c'est ridicule, mais c'est ma personnalité, je suis comme ça.
Oui.
Donc, du coup, pas de limite. Tout simplement. Si je fais 150 km dans la journée, c'est cool. Si j'en fais 60, c'est cool aussi. Tu vois, peu importe. Voilà. Si ça dépasse un peu les 150, eh ben, ça dépasse un peu les 150. Je m'arrête quand je sens vraiment que je ne peux plus avancer et que là, c'est le moment de se reposer. Voilà. Peu importe le dénivelé, peu importe le kilomètre dans la journée fait, c'est, voilà, aucune limite. Et puis comme ça, c'est ça aussi pour moi la liberté, c'est de ne pas se mettre de limite.
Bah puis de pas
Puisqu'on est
se mettre
libre
de
d'aller
pression
jusqu'où
aussi,
on veut.
parce que se dire
Voilà.
je fais 150 mais le lendemain je fais que 60 parce que j'ai mal au cul ou mal aux jambes, c'est se mettre une forme de pression.
Tout
Donc
à fait,
la
exactement.
liberté c'est aussi bah je fais 150 un jour,
Accepter.
je fais 50 le lendemain parce que je suis crevé, c'est oui, comme tu dis, c'est aussi accepter bah, nos limites, nos petites faiblesses, nos petits de se dire bah aujourd'hui je suis mauvais. Bah, c'est pas grave. Puis est-ce que c'est
Voilà.
vraiment aujourd'hui je suis pas en forme, aujourd'hui j'ai pas envie de rouler? Bah fuck off, je roule pas. Et
Voilà,
voilà.
c'est exactement ça. Pour moi, c'est ça la liberté. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment de ne pas se limiter à absolument faire tant de kilomètres dans la journée, absolument arriver à tel endroit, absolument. C'est à vivre au jour le jour à ce moment-là, et puis c'est tout. C'est comme ça. Et j'avoue, franchement, les 150 premiers kilomètres que j'ai fait, enfin la première fois que j'ai fait 150 km dans la journée, je les ai faits parce que j'étais en train de rentrer chez moi. Et que, en fin de journée, à l'heure à laquelle habituellement je m'arrête, j'étais à seulement 40 km de la maison. Ça faisait 26 jours que j'étais partie. Je trouvais ça ridicule de m'arrêter alors que j'étais qu'à 40 bornes de la maison. Donc, du coup, j'ai continué et je suis arrivée à 23 h chez moi. Mais juste parce que je voulais rentrer chez moi parce que c'était pas
Et c'est
loin.
souvent comme ça,
Voilà.
c'est souvent sur une contrainte, hein. Je me souviens le premier épisode que j'ai fait avec Sofiane Sehili, la
Oui.
première fois qu'il a fait un 300, C'est parce qu'il n'avait pas le choix. L'endroit où il pouvait dormir, se ravitailler, etc., c'était à 300 km. Entre les
Et
deux
ben
endroits, il
voilà.
n'y avait rien. Donc
Ben voilà.
c'était ça ou c'était ça ou ça. Donc c'est la contrainte aussi qui mène à faire des trucs et à sortir de sa zone de confort. Mais sinon de soi-même, c'est quand même assez. Parfois, ça peut être difficile de se mettre autant en déséquilibre, si on peut dire.
Ouais. Après, je peux comprendre les gens qui, eux, ressentent le besoin de se mettre des limites, de se dire je vais faire tant par jour, tant machin.
Un objectif,
Ok,
tu veux
je pense
dire?
que c'est. Oui, voilà.
Oui.
Je pense que c'est vraiment qu'une question de personnalité.
Complètement.
Ouais.
Ouais,
Mais tu vois, je pourrais jamais faire l'épreuve, par exemple.
c'est ce que j'allais te demander. C'était un peu la question subsidiaire, un peu piège. Justine, alors, est-ce que tu vas faire des courses?
Non, non.
Oh mince!
Bien faire la fan
La
sur le
groupie?
bord de la route avec, ouais, voilà, avec la banderole et pour encourager, ça, aucun souci. Je suis très admirative de ceux qui font les épreuves d'ultracyclisme, etc. Mais moi, je ne me sens pas de faire ça, encore pour une question de pression. Parce que quand tu fais ce genre d'épreuve, il y a tant de kilomètres à faire dans un temps donné. Et moi, je me connais, j'ai une personnalité qui fait que je me mettrai une pression énorme pour faire exactement les tant de kilomètres dans le temps donné. Et ça me paraît énorme. Et puis, c'est beaucoup plus sportif que je ne le suis, parce que j'aborde pas vraiment le vélo d'un point de vue sportif. Même si c'est du sport, hein, ça c'est clair, hein, on ne pourra jamais le nier. Mais
Alors dans ce
donc
cas-là,
moi,
si on veut être
je me
précis,
considère
tu
pas
l'abordes
comme
comme
une.
une activité physique et pas comme un sport.
Voilà, oui, tout à fait. Donc du coup, moi, je me considère pas du tout comme une athlète ou comme ou voilà, je me vois pas, en tout cas aujourd'hui, hein, dans l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. Peut-être que dans 5 ou 6 ans, ça changera, hein. On ne peut pas savoir. Mais et puis quand au début je comprenais pas trop, tu vois, quand j'ai un peu découvert ce milieu-là, j'avais du mal à comprendre comment on pouvait se faire mal à ce point-là. Sauf qu'en fait, ils ne se font pas mal. Au final, j'avais une vision complètement faussée de la chose. Même si on voit et on sent que parfois ils souffrent physiquement, qu'ils se blessent, qu'ils arrivent dans un état de fatigue absolument incroyable, je suis très admirative du mental qu'ils ont. Que toutes ces personnes qui participent à ces événements ont. Je trouve ça extraordinaire, mais je ne me sens pas de le faire. J'ai l'impression que ça ne correspond pas à ma façon, à moi, de faire du vélo, tout simplement.
Alors, je vais entamer la séquence psychologie du PMU. Voilà, tu peux t'allonger sur le baby-foot si tu veux.
Ok.
Voilà, c'est bon.
Je crois que le flipper, il sera plus confortable.
Ah, je ne réponds pas à ça. Je sens que c'est une honteuse provocation, je ne répondrai pas à ça.
Mais non.
Et voilà. Quand tu me dis, je me connais, est-ce que tu en es bien sûr?
Oui et non.
Ben voilà. J'en profite pour saluer tous mes amis normands. Voilà. Qui sont connus pour leur goût de la provocation. Ça va. Ça va, mais en même temps, ça va pas si bien que ça. Génial.
Oui, parce que je me connais dans le sens où je sais comment je réagis à certaines choses. Voilà, tout simplement, parce que je sais comment je réagis à certaines choses. Point. Et d'un autre côté, je ne me connais pas tant que ça parce que je l'ai vu encore avec mon voyage de l'été dernier, où je suis passée sur des routes sur lesquelles il aurait été, pour moi, je pensais que jamais j'aurais pu y passer. Et la preuve, j'y suis arrivée. Donc c'est que je ne me connais pas tant que ça finalement.
Donc ça veut dire que tu en as quand même sous les sockets.
Je pense, oui. J'espère.
Alors si tu penses, excuse-moi de creuser un peu, ça fait un peu.
Non, mais je t'en prie.
En plus, tu as bossé avec un psy et tout, et moi je te fais ça pour que dalle, donc je suis quand même drôlement magnanime. Si tu penses pourquoi ne pas y aller? Parce que si tu me disais non, j'ai atteint mon maximum, je l'ai fait, mais je vois bien que je peux pas faire plus. Mais là, si tu me dis je pense, ça veut dire que tu le sais déjà. Alors pourquoi ne pas y aller?
Parce que je réfléchis trop. Et moi, il faut surtout pas que je fasse les choses. Il faut pas que je réfléchisse les choses pour les faire. Il faut que je les fasse et c'est tout. Si ça se présente, je le fais. Si ça se présente pas, je le fais pas. J'ai besoin que les choses se fassent naturellement, se présentent à moi-même, sans les provoquer. Sinon, je cogite tellement que je fais rien. Je pense que c'est ça.
Est-ce que tu as un carnet, un crayon devant toi?
Un crayon, oui. Un papier, j'ai.
Alors tu vas noter la phrase suivante. L'art
Ouais.
chevaleresque du zen. Non, l'art du zen.
Oui.
Ou non, attends. Le zen dans l'art chevaleresque. Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc.
Le zen dans l'art chevaleresque du quoi?
Tir à l'arc.
Ah oui.
Eh oui. Alors attends, je vais quand même vérifier le côté chevaleresque parce que je suis pas entièrement certain. Je me demande si c'est parce que c'est pas parce que j'ai regardé Kaamelott récemment. Chevaleresque. Et je me suis dit que je fais un rapport
Référence.
entre ce livre, voilà, le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, donc j'avais pas complètement déliré. Voilà, donc tu vas le tu je t'en dis pas plus. Et d'ailleurs à personne
D'accord.
je n'en dis pas plus.
On se
À part
renseigne tout
que
seul.
c'est que vous allez vous démerder avec ça et que c'est le livre tout indiqué pour qui réfléchit trop et pour s'inspirer donc du zen japonais et comment faire pour que les choses se produisent sans trop y réfléchir parce qu'on est nombreux comme ça et quand je dis on, je m'inclus dedans. Ou quand on réfléchit trop, les choses ne se produisent pas forcément, ou en tout cas se produisent légèrement de travers parce qu'on ne résiste pas à la pression. Et
C'est
elles se
ça.
passent à merveille quand elles sont totalement instinctives.
Oui.
Et c'est bien embêtant parce que du coup, on aimerait à chaque fois reproduire cet état de grâce où on fait les choses à la perfection et parce qu'on n'a pas trop réfléchi. Et comme on essaye de le reproduire, et ben on y réfléchit beaucoup. Et plus on y réfléchit, et plus ça nous échappe. Et moi, bon, on y arrive et on se dit, mince, fichtre,
Ah mais
que
c'est tout à
diantre,
fait ça.
que diantre. Ah non, mais
Ouais.
attends, là, tu parles à un spécialiste.
Haha.
Hein. Donc, tu me feras le plaisir de lire ce bouquin, vous me ferez le plaisir bah, déjà de, bah, de, oui, de le lire. Alors, je ne vous dis pas où
Ouais.
l'acheter parce que je ne voudrais pas passer pour le mec qui a un code de recommandation sur Amazon ou sur la Fnac. Mais il se
Non,
trouve
mais oui.
aisément un petit peu partout et il est absolument génial. Et vous allez trouver tout un tas de trucs. Donc c'est le récit en fait d'un philosophe allemand qui a passé plusieurs années au Japon pour apprendre l'art subtil du tir à l'arc. Et il a
D'accord.
galéré pendant environ 5 ans avant de comprendre à peu près de quoi il en retournait.
Ok. Et je vais regarder ça, ça
Donc je vous le
m'intéresse.
conseille vraiment vivement parce que c'est absolument super. Vraiment,
Eh ben,
vraiment
merci pour la
génial.
référence.
Voilà. Et pour ceux qui aiment le Japon et le sumo, attends, c'est comment déjà? C'est un vieux bouquin journal. Pas directement Kirishima. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment le Japon et le sumo, Mémoire d'un lutteur de sumo, donc par le sumotori Kirishima, qui raconte son parcours et pareil, c'est super super intéressant parce que bah, pour un sumo, il était tout maigre. Et il raconte le calvaire que c'est de prendre du poids. Donc nous, en tant que cyclistes, on a parfois le calvaire que c'est de perdre du poids pour être le plus léger possible. Et bah, pour les sumos, c'est exactement l'inverse. Il faut être le plus gros possible pour être le plus stable et le plus difficile à transporter, si on peut dire. Et
Ouais.
du coup, il faut manger comme un goré, même plus que
Oh
ça.
là là,
Et
j'arrive même pas à l'imaginer.
c'est incroyable. Et le parcours sur plusieurs années pour passer les différents stades du sumotori, c'est vraiment génial. Et pour avoir vu du sumo en vrai au Japon, c'est un des sports les plus fabuleux qui existent. Même, je crois que même je trouve ça plus beau que le vélo. C'est génial.
Ouais, je veux bien te croire, ça doit être assez impressionnant.
Et puis, c'est pas tous les jours qu'on voit des mecs de 260 kilos.
Oui, non plus. Ça, c'est sûr. Surtout à vélo.
Bah, quand tu commences la journée de combat donc au palais du sumo, c'est les jeunes en premier, donc ils sont tout maigrelets. Ils sont à peu près
Ouais.
de ma corpulence, mais ils ont 12 ans. Donc ça te donne déjà une idée.
Net,
Et puis après, fur et à
impressionnant.
mesure que ça monte dans la journée, bah, tu vois que ça grossit un petit peu. Et puis en fin de journée, là, c'est les yokozuna, tous les trucs comme ça. Et là, c'est la folie, quoi. Parce que tu as toute la cérémonie, tout le cérémonial. Et puis les mecs de plus de 200 kilos, c'est hyper impressionnant.
Oh là là, j'imagine même
Tu les
pas,
croises dans les couloirs, tu cours pour avoir un autographe. Et puis ils te regardent parce que c'est des demi-dieux. Et puis toi, tu t'es. Moi, avec mes 65 kilos, quand je courais après, il m'a regardé avec un air dédaigneux.
qu'est-ce qu'ils veulent, mes grichons?
Y en a un qui est. Donc j'ai une photo avec un sumotori quand même. Et
Ah.
c'est quand même la petite blague, on dit que c'est mon frère jumeau parce qu'il fait environ 150 kilos et pour 1,90 m. Donc c'est exactement ma corpulence avec mes 65 kilos. Et voilà. Et
C'est noté.
si on reparlait un petit peu de ton équipement, parce que finalement, même si on en rigole, c'est aussi ce bon équipement de qualité. Et qui t'a donné confiance parce que tu avais un vélo qu'on pourrait qualifier de merdique, qui
Oui.
ne t'a apporté que des mécontentements, alors que là, en sachant que tu avais le vélo parfait et parfaitement adapté à ce que tu souhaitais faire, ça t'a
Ouais.
aussi encouragé à aller plus loin. Et puis tu as adapté ton look et tout, tu t'es fait ton petit truc custom shop toute seule, et c'est
Ben, ouais.
super intéressant.
En fait, c'est marrant parce que moi,
Qu'est-ce qu'on se marre
j'ai
depuis tout à
adapté.
l'heure?
Ouais. J'ai
Oh!
adapté le vélo et tout mon équipement de sacoche à mon look. En fait, j'ai assorti le vélo et les équipements à mon look que j'avais habituellement. Moi, c'est vrai que dans l'esthétisme a toujours été très présent dans ma vie. J'ai été artiste textile, photographe aussi, donc toujours dans
Dans
le
l'esthétique.
visuel surtout. Et puis le vélo, en fait. Quand j'ai trouvé ce vélo que j'adore aujourd'hui, j'avais envie que tout soit assorti, que les sacoches soient de la même couleur. Et puis, j'avais pas non plus. En fait, je suis partie aussi du principe que les sacoches que tous les voyageurs à vélo utilisent, je les trouve moches, tout simplement. Et j'avais pas envie de les avoir. C'est aussi simple que ça. Donc, j'ai simplement trouvé des sacoches que je trouvais jolies et en plus qui sont évidemment pratiques pour ce que je fais. Et bizarrement, tu vois, les sacoches que j'utilise sur mes porte-bagages, ce n'est même pas des sacoches pour porte-bagages, parce que j'ai quatre sacoches, mais à la base, ce sont quatre sacoches de selle. Il y en a deux que j'installe sur mon porte-bagages, une que j'installe à l'avant, devant le guidon, et l'autre sur ma selle à l'arrière. Voilà, tout simplement. Et puis elles sont toutes de la même couleur, de la couleur du vélo. Et puis voilà, et c'est vrai que comme tu dis, une fois qu'on a le vélo neuf, avec un bon équipement, enfin bien équipé, tout de suite on a aussi une tranquillité d'esprit de savoir que on a très peu de risques de problèmes mécaniques. Évidemment, ça peut arriver, hein, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais à part une crevaison parce que je n'avais même pas vérifié la pression de mes pneus avant de partir le matin. Là aujourd'hui, j'ai une tranquillité d'esprit qui fait qu'avec mon vélo, ça me donne envie d'aller partout, quoi, tout simplement. Alors qu'avec le vélo de juste avant, même si je suis une fan pour prendre des chemins, je m'aventurais pas sur les chemins parce que les roues, ça allait pas du tout. Elles supportaient pas. Elles n'étaient pas faites pour ça. Donc forcément, ça apporte une certaine tranquillité qui fait qu'on peut se permettre, comme tu dis, d'aller plus loin, tout simplement. Voilà, c'est comme ça.
Donc finalement, la relation avec ton vélo, c'est un peu comme une jolie histoire d'amour. Tu sais qu'avec ce vélo, quoi qu'il arrive, ça se passera bien.
Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça aussi souvent que on finit par donner un petit nom à notre vélo, c'est
Oh
parce
non,
que
pitié.
pour nous, c'est une prolongation de nous-mêmes, quoi. C'est même plus un véhicule, c'est un outil indispensable à notre vie, hein. Il fait partie de notre vie, il fait partie de la famille, comme le chat, comme le chien. C'est exactement la même chose.
Bon, non, mais c'est vrai. Alors, bon. Il s'appelle comment le tien?
Je suis désolée, il s'appelle Richard.
Ah, mais oui, en plus, oui, j'avais oublié. J'avais oublié. Alors, tu sais, j'avais gambergé et tout, j'avais préparé l'épisode. Et j'avais vu que ton vélo s'appelle Richard et je voulais commencer par des remerciements parce que non seulement je trouve. Enfin, je suis désolé de te le dire ainsi, mais je trouve que donner un nom à son vélo, enfin, en tout cas, de mon point de vue, eh ben, c'est con. Mais
oui,
de ce que tu viens de m'expliquer, eh ben, je le comprends parfaitement parce que toi, c'est quelque chose qui englobe ta personnalité, qui est un prolongement de ta personnalité. Alors que ben, moi, pas du tout. Tu vois, c'est un vélo, c'est un vélo en carbone, tout bête. Ça pourrait être écrit n'importe quoi dessus. Tant que ça avance de la manière que je lui demande d'avancer, je ne demande
c'est
pas
tout ce
de.
Qui compte.
Donc, ouais. Donc ça, je le comprends. Mais merci parce que ton vélo qui s'appelle Richard Premier, mais alors ça, je kiffe, mais totalement. Je suis
alors,
hyper
au début,
fan.
Au début, c'était juste Richard.
Ouais.
Et pour moi, il a gagné son
c'est galon.
Son statut de roi
ouais.
Quand j'ai passé le mur d'Aurec en Haute-Loire.
Ouais.
Et là, il est devenu Richard Premier.
Ah mais j'adore.
Et, le Richard, moi, quand je donne un nom à mon vélo. Je réfléchis pas, ça vient tout seul.
Ouais.
Mon VTT, je l'appelais Arnaud parce que c'était Arnaud le Peugeot, parce qu'il avait été acheté dans les années 90 au garage chez Arnaud.
Ah ouais.
Et du coup, il y avait l'étiquette avec écrit Arnaud Moto, parce que c'était le nom du garage, donc bah, c'était Arnaud le Peugeot, quoi. Voilà, tout simplement.
Et donc là, malgré tout, il y a quand même un petit fond de réflexion. On va pas passer une heure là-dessus parce que ça fait un petit peu.
Oui.
Que je laisse ça à d'autres. Mais pourquoi Richard? Parce que ça aurait pu être Jean-Jacques, Gilbert ou
ça aurait pu être n'importe quoi.
Ou Rulio.
Alors, c'est venu tout seul, mais c'est très très bête. C'est parce que mon vélo est donc de la marque Ratchback, j'arrive pas à le dire. Et donc, ça commence par R-I, et donc c'était Richard, tout simplement. C'est très bête, mais. C'est comme ça, j'ai même pas réfléchi. Hein. Tiens, comment je pourrais appeler mon vélo? Non, c'est sorti tout seul.
Donc
ben voilà, c'est Richard.
Foin foin, mais non, c'était Richard.
Voilà.
Cela dit, ça aurait été beaucoup moins drôle et ça nous aurait enlevé un sujet de conversation.
Voilà, ça aurait été beaucoup moins intéressant.
Bon, dis-moi, maintenant que t'en sais un petit peu plus sur toi, que t'es bien calé niveau matériel, que t'as recommencé à rouler, quels sont Tu vas faire quoi maintenant? Parce que tu vas pas, encore une fois, je ne suis pas dupe, tu vas pas me faire croire que tu vas te contenter de rouloter bêtement autour du Vaucluse. Tu as forcément une idée géniale derrière la tête. Forcément.
Ben,
un truc ambitieux, un truc qui te fait rêver, un truc qui te fait à la fois rêver mais un petit peu peur. Tu as forcément ça quelque part dans ton cerveau.
Il y en a plusieurs en fait,
ah,
c'est ça le problème, il n'y en a pas qu'un.
Oh, tu dois pas être facile à vivre.
Oh non,
oh là
pas
là.
Du tout.
Oh là là.
Oh. C'est pour ça que je suis solitaire.
Ah non, mais ça, c'est pas grave. Faut juste trouver le boulet qui s'accordera bien avec toi.
C'est encore une autre histoire.
Le boulet ou la boulette. Ça.
Oui, on sait pas. Hein.
Ah bah ça, fou là.
On ne peut jamais savoir. Alors moi, mon idée, déjà, je voulais aller me faire un petit tour d'Europe. J'avais envie d'aller visiter certains pays. Je rêve d'aller en Autriche. Je rêve des Balkans. Tout ça. J'ai des origines italiennes, donc je rêve aussi un peu d'aller visiter le pays de mon grand-père.
Ouais.
Et puis, j'ai trois rêves, en fait, vraiment, de voyage à vélo. C'est d'aller jusqu'en Inde. Et le faire en aller-retour, par contre, hein, voilà. De passer par la Pamir, ça, ou le Pamir, je ne sais plus si on dit le ou la Pamir. Et ensuite, ben, de faire un petit voyage, pourquoi pas en Amérique du Sud, pour aller passer de plantation en plantation de cacao, aller rencontrer les producteurs et même. Aller rencontrer à travers le monde, entre guillemets, les artisans chocolatiers dont je vends les tablettes dans ma boutique. C'est aller les voir et les rencontrer en vrai, voir leurs ateliers et tout ça, ne le faire qu'à vélo, quoi. Ça, c'est mes, voilà, c'est un peu mes rêves de voyageuse. Là, le tour d'Europe, j'étais pratiquement prête à le faire l'année dernière, mais voilà, on a eu, comme tout le monde, nos projets, mes projets, avortés à cause du Covid. Donc, je suis encore restée en France, en 2020. 2021, je vais aussi rester en France parce que j'ai pas très envie de me prendre la tête à passer des frontières patin couffin. Donc, je vais attendre un petit peu, peut-être 2023. Et puis là, je partirai. Mais après, je sais même pas si je vais créer un itinéraire ou si je vais avancer au feeling. Est-ce que je vais suivre des Eurovélos ou ne pas les suivre? Ça, c'est le flou, par contre. Hein, la route exacte à prendre, pour l'instant, c'est le flou. Mais voilà, mes rêves, traverser l'Europe, l'Amérique du Sud et pourquoi pas partir de la maison pour aller jusqu'en Inde et revenir.
Pourquoi l'Inde?
Alors l'Inde, j'ai une petite affinité avec du fait
Ah,
d'avoir
purée, on en a parlé
fait
en
de la danse
plus.
indienne. Et donc quand je suis allée en Inde en 2017, j'étais allée pour faire une retraite de danse classique indienne et de yoga. Et surtout d'aller, étant donné que j'ai aussi fait ce qu'on appelle la danse tribal fusion, qui peut prendre un peu ses sources dans les danses gitanes. Et les danses gitanes, elles prennent sa source dans le nord de l'Inde. Donc on a rencontré la communauté des Kalbeliya, qui sont les anciens charmeurs de serpents. Et d'où un peu la base, la source même de la danse vient de chez eux, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai une certaine petite affinité avec l'Inde au niveau de la danse et du yoga, puisque je
Oui, j'ai
fais
noté
beaucoup de.
aussi que tu yoguais le matin pendant ton premier voyage sur
Ouais.
le canal du Midi et que ça a été aussi un des piliers de ton expérience finalement.
Ouais. Alors, je faisais déjà du yoga avant, mais c'était compliqué parce que j'avais du mal au niveau de mon cerveau, en fait, à me connecter à mon esprit, on va dire. Et lors de ce petit périple, même la retraite de yoga en Inde, j'ai vécu des moments très intenses. Mais ce matin, ces matins, à faire mon yoga, au sortir de la tente, en étant seule, soit au bord du canal ou plus loin, parce que parfois je sortais du canal aussi pour aller un petit peu plus loin. C'était magique parce que comme c'est la première fois que j'avais l'esprit aussi tranquille, j'ai enfin compris cette connexion entre le corps et l'esprit à ce moment-là. Et j'ai pleuré, mais pleuré à la fois de bien-être, de bonheur, d'apaisement. Et le yoga fait aussi partie de ma vie. Que je pédale ou pas, je fais du yoga. Voilà, et ça m'aide aussi physiquement à tenir sur le vélo, les heures sur la selle, à pouvoir me détendre, à pouvoir aussi me renforcer les jambes, parce que le yoga, c'est pas que de la détente. On se renforce aussi au niveau musculaire, c'est impressionnant. Mais au niveau des jambes, c'est pour ça que parfois on me dit, oh là là, mais tu pédales super vite. Mais c'est parce que j'ai les jambes très musclées, grâce à la danse, grâce au yoga et grâce au vélo. Et pour moi, je trouve que le yoga et le vélo, ça va très très bien ensemble. On peut se remettre d'aplomb. Avant que je fasse du yoga, par exemple, j'avais les genoux qui n'étaient pas très droits, qui rentraient vers l'intérieur. Et maintenant, j'ai les genoux très droits et je pédale même beaucoup mieux. Je suis plus à l'aise sur mon vélo. Et sans le yoga, peut-être que je n'aurais pas cette. Peut-être que ce problème ne se serait jamais arrangé. Donc, le yoga pour moi est vraiment très important et maintenant j'arrive à combiner, pour moi les deux, ça va ensemble. C'est pas l'un sans l'autre. Voilà, c'est comme ça.
Donc tu arrives à faire des poses de yoga sur ton vélo.
Alors non, là, sur le vélo, c'est plus de la méditation. Parce que je rentre facilement en méditation quand je pédale, alors que quand je ne pédale pas, j'ai beaucoup de mal à méditer. Quand je m'arrête, avant de commencer à pédaler ou une fois que j'ai terminé de pédaler, j'ai besoin de faire certaines postures pour reposer mon corps. Parfois, on a les muscles quand même, on a le corps qui est un peu lourd, un peu fatigué. Les postures de yoga vont me faciliter à apaiser les douleurs que pourrait m'apporter de temps en temps quand même le vélo, parce que c'est pas toujours la perfection non plus, hein. Voilà. Mais ouais, j'en ressens le besoin. Toujours.
Je suppose que pas mal de monde te contacte au sujet de ce que tu fais à vélo, parce que c'est très
Oui.
bien documenté. Et qu'est-ce que tu réponds aux individus qui te disent ouais, c'est génial, moi j'aimerais bien faire ça. Voilà, j'aimerais bien faire ça. Qu'est-ce que tu leur réponds?
Fais-le. Tout
T'as bien
simplement.
beau. T'es quand même gonflé de dire ça. Ah, franchement, ah, tu ne manques pas de toupet.
Je sais pas, si tu as envie de le faire, ben fais-le. C'est
Ah oui,
voilà.
mais c'est si la personne. Enfin, j'ai déjà eu cette conversation avec Clémence et Sandrine.
Oui.
J'ai pris un exemple, je vais pas le reprendre aujourd'hui, mais si quelqu'un, toi, t'avais tout un tas de limitations, tu pensais que tu pouvais pas monter les côtes, etc. Si quelqu'un a envie de faire ce que tu fais, mais qui a peur de diverses choses, eh ben, c'est pas en lui disant fais-le que ça va s'arranger.
Évidemment, ça c'est sûr.
Donc, quels sont tes arguments massue au-delà de si tu veux le faire, fais-le, sur un malentendu, etc.
Alors, je prends l'exemple des femmes parce que je suis à 95% du temps contactée par des femmes qui
Ah
veulent
oui.
voyager seules et qui n'osent pas voyager seules. Et comme moi, je voyage uniquement en solo, forcément, elles me posent 150 milliards de questions.
Les
Et
filles,
la
elles sont
question qui
bavardes.
revient,
150 milliards de questions.
la première question qu'elle me pose, c'est au niveau de la sécurité. D'ailleurs, ça, j'ai une grosse différence entre les hommes et les femmes. Quand un homme part voyager, qui dit qu'il va faire tel voyage, tout le monde le trouve, dit oui, c'est génial. Et quand une femme dit qu'elle va voyager seule, la première chose qu'on lui dit, c'est mais t'as pas peur? Voilà. Et moi, c'est la première question qu'on me pose, et c'est cette question que je reçois je ne sais combien de fois par semaine. Donc, en fait, c'est vrai que je leur réponds évidemment d'un point de vue très personnel, parce qu'on voit toute la sécurité ou le voyage en solo de manière différente. Moi, je leur dis, de toute façon, quand tu es sur ton vélo, tu avances, la personne, elle sait que tu croises, elle ne sait pas si tu habites dans le coin ou si tu viens de faire 500 km. Donc, ils s'en foutent de toi qui es toute seule sur ton vélo. Autant tu reviens des courses et tu es en train de rentrer chez toi. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On ne va pas venir t'embêter.
Pardon.
Mais là où elles ont le plus peur, c'est pour le bivouac. Et ce que je réponds toujours, parce que je le pense très très sincèrement, c'est que je me sens beaucoup plus en sécurité quand je fais du bivouac seule en pleine nature que quand j'arrive seule dans un camping. Dans les campings, il y a quand même des histoires de faits divers assez, pardon, assez impressionnants. Je pense au camping d'Avignon à 30 km de chez moi, où il y avait un gars qui, la nuit, il ouvrait les tentes pour caresser les pieds. Je
Ah mais
rigole,
je
mais
le
c'est pas
connais, je crois qu'il a monté le Ventoux en pignon fixe il y a pas longtemps.
normal.
Ah mais il y a quand même, tu vois, on peut en rigoler, mais il y a quand même des gens bizarres.
Mais oui, il y a des gens très
Il y
bizarres.
a quand même des,
Et
enfin ouais, c'est quand même bizarre quoi, parce que même si ça va pas plus loin que les pieds,
oui, c'est
c'est quand
flippant.
même, faut être quand même sacré tordu, hein, quand même,
Ah, mais complètement.
quand même.
Et encore ce matin, sur un groupe de voyageurs à vélo, il y en a une à qui j'ai répondu ça, que je me sentais beaucoup plus en sécurité seule, puisque quand on fait du bivouac, la base du bivouac, c'est la discrétion.
Ben
On ne se
oui.
pose pas n'importe où comme ça sur le bord de la route. On vérifie que déjà un peu que personne ne nous voit, donc personne n'est censé être là. Et à part un sanglier qui nous fonce dans la tente, il n'y a personne qui va venir te violer en plein milieu de la nature. Voilà.
Ouais.
Sauf qu'au camping, j'ai entendu des histoires de viol, des histoires de vol. Moi, quand j'arrive toute seule, tout le monde sait que je suis seule. Tout le monde me voit seule. Donc déjà, quand je pose ma tente l'été dernier, j'ai eu un exemple. Sur les 26 jours de voyage, je suis allée 3 fois en camping. Enfin, c'est le moment où j'ai envie de me poser, qu'à midi je sens que je suis fatiguée, hop, je trouve un camping, là je prends une vraie douche, je me lave les cheveux, je me pose un peu. Sauf que je suis arrivée en bord de Méditerranée, là les campings étaient blindés de touristes. On m'a installée à côté d'un groupe d'hommes je n'étais pas du tout rassurée. Je suis arrivée, déjà, ils se sont presque mis en cercle autour de moi à me regarder comme si j'étais un animal dans un zoo pendant que j'étais en train de monter ma tente. J'étais mal, j'étais pas à l'aise du tout. Et ils arrêtaient pas de venir me... je les entendais parler du cuissard moulant, tu vois, de mes jolies petites fesses moulées dans le cuissard. Je n'ai même pas osé quitter ma tente pour aller au sanitaire de peur qu'ils viennent fouiller dans mes affaires. Tu vois, c'est... Donc, je me sentirais toujours en sécurité en bivouac plus qu'en camping, sauf au camping municipal où j'en ai fait quelques-uns, où là, c'était génial, assez familial, où parfois, on voit aussi une dizaine de cyclo-voyageurs débarquer. On se retrouve tous, on mange ensemble, on surveille les vélos et les sacoches des uns et des autres pendant qu'on va au sanitaire. Voilà, tout ça. Donc, au niveau de la sécurité, celles qui ont peur de franchir ce cap, je leur raconte ces histoires-là. Et d'un coup, trois quarts du temps, ils me répondent « Ah mais oui, c'est vrai, t'as raison, j'y avais jamais pensé. » Et après, je comprends que le bivouac seul, en tant que femme, peut faire peur. Ça, je le comprends tout à fait. Moi, je me suis jamais posé la question la première fois où je suis partie faire du vélo, parce que je faisais déjà du bivouac avant. Même je partais avec mon VTT, mon petit sac à dos, je pédalais en pleine cambrousse. Et le soir, je m'arrêtais là où j'étais, je dormais à l'endroit où j'étais, et hop, je repartais le lendemain matin. Mais ce qui fait surtout peur, c'est les bruits de la nuit qu'on n'a pas l'habitude, surtout quand on habite en ville et qu'on n'a pas l'habitude de dormir en pleine nature. Il y a des bruits impressionnants. La première fois que j'ai entendu le cri d'un renard, mais j'ai eu la peur de ma vie, parce que je n'avais jamais
entendu. Ça fait un petit bruit aigu, immonde, hein, le renard.
Ben, on dirait une femme qui hurle.
Non, ça c'est la truie. J'ai les cris des animaux dans un livre en haut et je pourrais faire une illustration sonore du renard la nuit. Mais, non mais oui, enfin tu vois, je te dis ça en rigolant, mais avec ma femme quand on est allé quand on a traversé les Balkans, on est en Slovénie au large de Ljubljana, on n'a pas dormi de la nuit parce que il y avait des lapins qui grattaient à la tente et on savait pas si c'était vraiment un lapin, un lynx, un ours, parce qu'il y en a plein là-bas.
Et voilà, c'est ça.
Mais je pense que c'était un lapin quand même.
Et puis, j'espère pour vous.
On est toujours là, donc si ça avait dû être un animal féroce, a priori, on se serait fait bouffer. Mais bon, je pense que c'était plutôt des lapins adultes. et puis quand t'as planté sa tente n'importe où, quand on est rentré, on a quand même mis la tente sur une aire d'autoroute entre deux camions. Donc là, on a vraiment dormi n'importe où. Mais on a quand même eu un petit peu peur.
Ben oui, voilà. Même si quand on est habitué, parfois ça nous arrive d'avoir des craintes. J'ai eu une nuit que j'ai passée sous un abribus en bord de route, parce que je me suis retrouvée là et passé la journée sous des averses, que j'en avais ras-le-bol et que j'étais trempée et que j'avais pas envie d'aller plus loin. J'ai eu peur que la nuit qu'il y ait quelqu'un qui me voit et qui même prendre une amende ou qu'il y ait des hommes qui comprennent que j'étais une femme seule. Ou je peux pas m'empêcher de penser ces choses-là, même si je suis habituée à bivouaquer. Mais c'est vrai que les bruits d'animaux, les bruits de la nuit, on finit par s'y faire. Mais ça m'empêche pas aussi, le matin, je me réveille, je prends le petit déjeuner, alors comme tu es tout seul, c'est silencieux, tu fais un bruit, et puis d'un coup, tu t'entends le grognement d'un sanglier, tu lèves la tête et tu le vois, son groin qui est enfoncé dans la terre, il est en train de foncer vers toi. Donc moi, après, dans la région où je suis, je connais les sangliers, je sais que quand il est seul, sans ses petits, il est moins agressif que s'il y avait toute la famille. Donc j'ai fait du bruit pour qu'il sache que j'étais là, il a levé la tête et il est reparti en grognant dans l'autre sens. C'est sûr qu'après, quand il est reparti, je tremblotais un peu, parce que se faire charger par un sanglier, c'est pas drôle, quoi. Mais voilà, j'essaye de les rassurer en leur disant que au niveau humain, parce que en fait, ce qu'elles craignent le plus, le sujet qui revient le plus, c'est les agressions sexuelles, tout simplement. Tu vois, on est conditionné, il nous arrive tellement de choses quand on parle de harcèlement de rue, de MeToo et compagnie, c'est pas exagéré, c'est pas des blagues. Donc nous, la première chose qu'on pense en tant que femme, c'est mais est-ce que je risque de me faire agresser par un homme ? Donc j'essaie de les rassurer sur ce point-là, et il y en a plein qui après elles me renvoient un message en me disant ça y est, j'ai franchi le cap, je suis partie toute seule, j'ai fait mon premier bivouac, c'était merveilleux, je te remercie, c'est grâce à toi, patati patata. Et là je suis contente parce que j'ai aidé quelqu'un à franchir un cap qu'elle avait du mal à passer avant. Il y en a eu une fois, je lui avais dit, si le soir de son premier bivouac, elle flippait trop, moi je suis toujours plus ou moins connectée sur Internet, bah, qu'elle m'envoie un message et puis on papotera. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a entendu des bruits d'animaux, elle a eu peur, elle m'a appelée à 23h et j'ai passé presque toute la nuit avec elle au téléphone. Et le lendemain, elle est repartie, elle était plus calme parce que du coup, elle avait l'impression de plus être seule. Donc voilà, je vais quand même essayer de les rassurer à ce niveau-là. Et puis après, je leur dis chapeau les filles, quoi. Ça y est, vous y êtes arrivées. On est conditionné dans les préjugés et dans les peurs qui font qu'en fait, c'est ça qui nous bloque. Et une fois qu'on a passé le cap, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. Mais c'est pas facile de franchir ce cap, je le comprends parfaitement.
Et du coup, que ce soit les personnes que tu as conseillées ou toi, il y a combien de viols et d'agressions au compteur ?
Zéro.
Donc est-ce que Aucune. Dans le conditionnement, il n'y a pas cette peur irrationnelle, bon, qui est aussi, je tente pas de minimiser, mais qui est aussi conditionnée, enfin qui est à la fois une réalité, mais aussi qui est peut-être pas conditionnée, je ne sais pas comment le dire correctement sans... Il y a une peur qui est là, mais est-ce que forcément, même si on reprend l'exemple du camping, c'est pas parce que les mecs regardaient tes fesses qu'ils allaient te violer dans la nuit.
Ah mais tout à fait, non mais c'est exactement
le
ça.
Le comportement est stupide, ça on est d'accord.
Bon. Mais du coup on peut pas empêcher de se dire, mais attends, ils sont 8, je suis toute seule quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est même si ils ne font rien. Nous, on est tellement habitués aussi, même depuis petite, où on nous dit toujours « Sois prudente, sois prudente, sois prudente ». Tu vois, quand les hommes partent seuls, je vois personne, par exemple sur les réseaux sociaux, à leur dire « Sois prudent ». Quand ils partent seuls, elles ont 45 commentaires pour leur dire « Sois prudente ». Donc, en fait, je pense que c'est dans l'éducation, tout simplement. On nous apprend tellement à essayer d'être prudente envers les inconnus, hommes en particulier, qu'on est conditionné complètement dans cette peur qui parfois, même si elle est justifiée, elle n'est pas totalement justifiée non plus. Parce que tous les hommes ne sont pas des violeurs. C'est pas parce que c'est des lourds qui sont forcément des violeurs. Ça, c'est clair. Mais quoi, en plus que je suis un peu du genre où j'ai pas très envie qu'on fasse attention à moi, tu vois, j'ai envie qu'on me laisse tranquille ou d'être discrète, qu'on me regarde pas trop. Sauf que le problème aussi, c'est que je suis énormément tatouée. Et les tatouages, ça attire aussi beaucoup les gens parce que beaucoup s'imaginent que parce qu'on est tatoué, on est très open, que ce soit dans la discussion ou plus aussi affinité, alors que pas du tout. C'est donc on va tout de suite me fixer, regarder mes tatouages de la tête aux pieds. Soudain, les gens perdent toute politesse ou tu sais, on nous apprend à pas fixer les inconnus. Ben là, c'est raté parce que là, on va regarder mes tatouages de la tête aux pieds. Et sauf que moi, j'ai juste envie d'être tranquille et de monter ma tente peinard dans mon coin sans qu'on fasse attention à moi, quoi. Donc, c'est compliqué. C'est le rapport parfois à l'autre peut être un petit peu compliqué.
J'ai oublié de relancer l'enregistrement quand on a été coupé. Donc, toute la tirade qu'on vient de faire sur les mecs lourds, sur les nanas lourdes, sur les dreads, sur les tatouages, sur James Hetfield, sur le Black Album... qui est une grosse merde, d'ailleurs, ne l'écoutez pas. Il n'y a que Master of Puppets, le reste, c'est de la daube.
Excuse-moi. Ah, c'est magique. Bon, on peut essayer de la refaire, mais bon, ce ne sera pas aussi...
Non, bah, ça sera pas aussi réussi. Instinctif. Mais bon, en résumé... que là tu me parlais de tes histoires de tatouages, des fringues moulantes, mais c'est aussi relatif à l'apparence, c'est aussi relatif à l'image sympathique que ça va renvoyer. Si toi tu as une allure sympathique avec tes tatouages, ton vélo, tes trucs en cuir et machin, mais un mec avec des dreads, on va s'imaginer qu'il écoute du reggae, qu'il fume des joints, ce qui est certainement faux d'ailleurs, où on va avoir une apparence à la fois ou rebutante ou sympathique. Un mec avec des dreads, avec un bonnet vert jaune rouge, va paraître sympathique. Et puis, bah, tu vas au Hellfest un samedi après-midi, tu vois que des mecs habillés en noir, tu te dis, ouh. Et puis en
C'est
fait,
des satanistes.
bah oui, bah, j'espère
Ah
bien. Putain.
c'est comme ce que je voulais dire, c'était comme le vélo taffeur qui va se moquer du cycliste retraité en total lycra et qui l'appellera le Raymond à vélo. C'est pareil. On en revient à identifier une personne en fonction de comment elle s'habille, comment elle est, au lieu de creuser pour voir sa mentalité, parce que la mentalité est certainement différente de ce qui fait paraître.
Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ça? C'était magnifique.
Eh oui, c'était beau.
Mais c'était une beauté. Et du coup, quand je t'ai dit arrête, j'ai oublié de relancer l'enregistrement, qu'est-ce qu'on racontait?
du coup, je me suis perdue.
Ouais, moi aussi. Mais c'est pas le meilleur moment?
Bah si.
Bah si.
C'est toujours comme ça en général. Non, mais oui, on était toujours sur l'apparence, les gros lourdauds, et c'est pas parce que telle personne est un peu lourde qu'elle va passer à l'acte. Il y a des réflexions, on a peur, mais au final, je n'ai jamais entendu une seule personne en tant que voyageuse à vélo qui s'est faite agresser sexuellement par des hommes, tout simplement. C'est une peur dans laquelle on est conditionné depuis petite parce qu'on nous dit toujours d'être prudente, parle pas aux inconnus, évite de regarder les hommes dans les yeux, réponds pas quand on te parle. Alors que ça, c'est quelque chose souvent qu'on ne dit pas aux garçons. Voilà, comme je te disais, quand sur les groupes, quand il y a un homme qui vient dire qu'il va faire tel voyage à vélo tout seul, en solo, jusque dans tel pays, on lui dit ouais, c'est merveilleux, fais-nous part de ton itinéraire. Et quand c'est une femme, elle a 45 commentaires pour lui dire sois prudente. Alors qu'à l'homme, on ne va pas lui dire sois prudent. Donc en fait, on est conditionné à avoir peur pour une chose qui certes existe et est très grave, mais que je n'ai jamais entendu arriver dans la communauté des cyclo-voyageurs, quoi. Ou des cyclistes tout court, même.
Ça a dû arriver.
Peut-être.
Je te dépeignais un portrait idyllique des concerts métal. Il y a quand même eu des viols au Hellfest. Donc,
Eh oui, au niveau
c'est
du
pas, c'est
camping,
pas, c'est
surtout.
pas, c'est pas. Oui, au camping. Bah, en même temps. Mais je suppose que ça a dû arriver. Tu vois, tu t'es allé en Inde. Bah,
Oh là
franchement,
là, l'Inde. Oh non, n'en parle pas.
si quelqu'un qui aimerait se faire violer, je lui conseille d'aller en Inde.
Voilà, le rapport à la femme est absolument impressionnant là-bas. Nous, notre guide, elle nous l'a tout de suite dit. En plus, même si je ne suis pas très sociable au premier abord, je peux être très facilement souriante. Et on m'a dit, fais gaffe, parce que si tu fais un sourire à un Indien, même pour lui dire merci parce qu'il te rend la monnaie quand tu lui achètes une bouteille d'eau, lui, il croit que ça y est, emballé, c'est pesé, quoi. C'est un petit peu ce qui m'est, enfin, pas ce qui m'est arrivé, mais que j'ai ressenti aussi. C'est tout de suite, ils me disent, ah ben viens, on va derrière. Non.
Oh.
Non.
Bah, puis en plus, en termes d'hygiène, au secours. Hein.
Oh mon Dieu.
Puis en plus, oh, l'accent, quoi. Oh yes, it's good, my friend. Oh yes, again.
Et tu sais, la tête qui penche de tous les côtés là pour dire oui, alors que tu sais pas du coup
Oh.
s'il dit oui, non, peut-être, qui te font des blagues et qui rigolent pas, alors qu'en fait c'était très drôle, t'es le seul à rire et tu dis mince, en fait ils rigolaient pas,
Parce
alors que
que,
si.
oui.
Non, c'est très bizarre. Moi j'aime l'Inde, mais j'ai
Ah
beaucoup de mal avec les Indiens.
D'accord. Tu
Je
sais que c'est pas de bol parce qu'ils sont hyper nombreux quand même. Hein.
te jure. Ben oui,
Oh là
j'aime la
là.
culture indienne, mais les Indiens,
Ah ouais,
bof
non mais
bof.
c'est l'horreur, hein. Franchement. Enfin.
Bruyance, ils sont là tout le temps. Le seul moment où tu es tranquille, c'est quand tu vas aux toilettes. En vrai. C'est vrai. Et tu vois, quand j'y étais allée, donc on était en groupe, on était 12 femmes. Donc tout de suite, 12 femmes françaises, on se faisait mais alpaguer. On sortait de la gare, il y avait 50 mecs autour de nous, quoi.
Ouais.
On était l'attraction du moment. C'était horrible, horrible. C'était dur. Et une fois, il y en a un qui commençait à me tirer le bras parce qu'il a vu le bout de mon tatouage qui dépassait de ma manche. Alors il me soulevait la manche et il me tirait les filles qui me tiraient de l'autre côté. Il appelait tout le monde pour prendre en photo mon bras tatoué. C'est c'est impressionnant, impressionnant. J'ai eu un petit peu peur à ce moment-là, hein, j'avoue. Hein.
Ouais.
Mais c'est clair, après,
tu
voilà.
Tu veux retourner dans ce bled à vélo? Non, mais franchement. Mais après, c'est
J'ai
vraiment,
vu
tu vois,
une.
plutôt l'Inde du Sud où on a. Moi, j'ai toujours entendu que l'Inde du Sud, c'est beaucoup plus relax.
Ouais,
L'Inde du
j'ai
Nord,
fait
c'est.
Goa aussi. Mais Goa, c'est tout touriste. Hein. J'étais au milieu des Russes.
Bah oui. Ouais. C'est pas
Laisse
pour rien que
tomber.
ça a donné son, que ça a donné son nom à un genre musical de drogué, quand même.
N'est-ce pas? Voilà.
Bah oui.
Mais et tu sais que dans le Kerala, il y a des plantations de cacao.
Bah certainement, à partir du moment où
Ouais.
c'est un petit peu en altitude, autour de 500-600 mètres, légèrement chaud, légèrement humide, là
Ouais.
c'est une zone cacao. Le café c'est plus haut, mais le cacao c'est 500-700, humide, chaud, et puis en
Ouais.
avant-gardant. Hein. Bon, évidemment, ils
Ouais, donc
connaissent
j'ai
pas
quelques
Guingamp là-bas,
chocolats
mais
qui
bon.
ouais.
Tu peux leur dire en
J'ai
avant
quelques chocolats.
Guingamp, mais ils s'en foutent. Hein.
Complètement, ils comprennent même pas.
Bah non.
J'ai quelques tablettes qui ont été faites avec du cacao venant du sud de l'Inde, et j'ai même vu qu'il y avait une fondation qui faisait travailler les femmes, et elles ont créé toute une production de cacao, et elles se débrouillent toutes seules, quoi. Elles se sont complètement, comment on dit,
Affranchi du patriarcat.
voilà,
Oh putain.
voilà. Ça va loin.
T'as vu un peu, elle était belle celle-là. Hein.
Ah, là, tu l'as, t'es allé la chercher loin.
Oh non, mais j'ai des mots comme ça que je me réserve, tu sais, que j'aime
Non, mais
bien, que j'ai
il
en mémoire et que je me dis, celui-là, quand tu vas le sortir, ça va claquer.
faut.
Tu sais, comme antépénultième, par exemple. Enfin, c'est pas tous les jours que je peux le sortir, hein, évidemment, mais bon,
Ah
quand
non, là,
l'occasion se
j'imagine.
présente, où
Mais
tu
ça doit
vois
pas être.
des petits traits de culture pour faire croire que je suis cultivé, des trucs,
Ouais.
par exemple, Justine, est-ce que tu savais que la Méditerranée renouvelle ses eaux intégralement tous les 80 ans par le détroit de Gibraltar?
Eh ben non, je ne savais pas.
Et ben voilà.
Ben c'est merveilleux. Moi qui suis méditerranéenne, en plus, je suis
Ah bah
censée
tu vois,
savoir
comme quoi, non mais non
ça.
seulement t'es méditerranéenne et t'as jamais visité la Tour Eiffel, avoue que ça tombe bien.
Comme quoi, on en apprend tous les jours.
Mais j'adore, j'adore.
Ah oui, je pourrais la
J'adore ça.
ressortir, celle-là, tiens.
Ah ouais, non mais elle est balèze. En plus, c'est con.
Ah
Tu sais,
oui.
tu as un truc, c'est un trou d'eau, avec un petit passage à Gibraltar, un rocher au fin fond de l'Espagne, et bim!
Ça
Tu
paraît
sors
fou quand
une.
même, hein?
Tu. Bah ouais. Mais bon.
Enfin bon, faut pas que je vais rester bloqué dessus après.
Bah oui, tu gamberges trop, toi. Par contre, je vais devoir t'abandonner. Alors, Justine,
Oui,
franchement, mille
oui.
merci.
Ben merci à toi.
Ben non, parce que moi, j'ai rien à raconter. Et si les épisodes sont aussi marrants, c'est parce que mes invités sont géniaux. Et
Eh
si c'était que autour de moi, de ma petite vie, j'écoute Metallica, je fais du vélo, j'ai du poil aux pattes, ça serait nul. Alors que grâce à vous, c'est génial. Et c'est ça qui. C'est grâce à vous que c'est bien, c'est pas grâce à moi.
oui, mais parce que
Donc.
tu toi aussi t'apportes les choses, tu nous apprends des choses, la preuve,
Ah bah oui.
tu vois.
Le renouvellement des eaux de la Méditerranée par le détroit de
Voilà.
Gibraltar. Ah bah dis donc, c'est sûr
Alors que c'est
qu'avec
censé
ça.
parler vélo.
Ah, c'est sûr qu'avec ça, on va trouver un vaccin. Bravo! Ah, bravo! Vive la France!
Plus de pandémie.
Putain. Par contre, là où je suis quand même assez fier de moi, c'est que je t'aurais bien fait rigoler.
Ah oui, ça c'est parfait.
Et ça, on a beau dire, c'est quand même la meilleure des thérapies.
Ah oui, je confirme.
Donc, merci mille fois pour
Avec plaisir.
le témoignage sincère. Parce que malgré tout, t'es revenu sur quelque chose qui n'est pas facile, et puis c'est jamais agréable de dire j'ai pété un plomb, et puis je me suis. J'ai fait du vélo, je suis allé un petit peu plus loin, où j'ai monté des côtes, où j'ai monté des cols, alors qu'avant je m'en croyais pas capable. C'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours. Aujourd'hui, faut être quasiment surhumain, tu vois, faut être la femme qui a battu les hommes, faut être l'homme qui va faire de la natation sur la lune. Ce genre de
Oui.
truc. Mais
Ou
juste
comme si pousser
dire.
son vélo, c'était la honte suprême.
Pardon?
Ou comme si pousser son vélo était la honte suprême.
Ben non. Mais
Ça, je
aussi
l'ai
pouvoir
plus.
dire, ben, je pousse mon vélo, d'accord, j'avance pas vite, j'ai des faiblesses, j'ai des lacunes, j'ai des failles. C'est hyper important et c'est vachement plus relaxant et beaucoup plus inspirant à entendre que dire moi je fais 400 bandes par jour, j'ai pas mal au cul, j'ai pas mal aux couilles, et puis voilà, et c'est facile, et j'ai fait ça pendant 3 semaines d'affilée. Mais qu'est-ce que tu veux? Alors d'accord, ça fait un modèle à atteindre, mais qu'est-ce qu'on apprend de ça? Qu'est-ce qu'on
Pas
apprend de
grand-chose.
au quotidien? Qu'est-ce qu'on apprend, nous qui sommes bah, entre guillemets mauvais? Qu'est-ce qu'on en tire de ça? Des gens super exceptionnels qui font des trucs de barge. Par
Qu'on n'est pas
définition, les
capable.
gens exceptionnels sont très rares et la majorité
Oui.
d'entre nous ne le sommes pas. Donc,
Oui, tout à fait.
entendre des gens faillibles, eh ben, c'est hyper relaxant.
Eh ben,
Puis comme là, je suis couché
merci.
sur mon canapé, je te promets que je suis méga relaxé, quoi.
Ah bah tant mieux, petite séance de méditation.
Avec les pattes en l'air, parce que j'ai mal aux jambes d'hier. Voilà.
Eh bah voilà, un peu de yoga.
Oh non. Non, 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 ça, c'est un truc de hippie, hein, c'est bon. Voilà, c'était ma dernière remarque acerbe de la journée.
Elle était parfaite.
Justine, une dernière fois, merci beaucoup et je te laisse pour ta minute de solitude. Moi, je vais poser mon
Ok.
micro et toi, tu restes en ligne, tu restes connecté, tu dis ce que tu veux, tu prends le temps que tu veux, tu racontes vraiment ce que tu veux et quand tu as fini, tu raccroches et ça sera fini ainsi.
D'accord.
À très bientôt, Justine, merci encore.
Merci à toi et au plaisir. Tout ce que je pourrais dire pour terminer, c'est un petit message à toutes ces jeunes femmes qui rêvent de partir, qui ne se sentent pas capables. Je vous jure, on en est toutes capables. Si moi je l'ai fait, n'importe qui peut le faire. Tout le monde peut le faire. Essayez de passer le cap. Une fois que vous l'aurez passé, ce n'est que du bonheur. Faites-vous plaisir, c'est le plus important. Ne cherchez pas la performance, cherchez le plaisir. Et allez-y, pédalez.